Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie d'être là, puisque nous allons clôturer aujourd'hui, d'une manière relative en tout cas, le sujet de cours que nous avons abordé cette année, à savoir la composition du Panthéon de l'Avesta récent, hein, vu à la fois dans le cadre du grand rituel, du rituel de la liturgie longue et dans le système du corpus des hymnes sacrificiels que nous appelons les Yasht. Alors, nous allons abandonner un peu cette perspective parce que aujourd'hui, je voudrais faire avec vous, je crois, pour mettre les choses au point et avant l'an prochain de passer à d'autres préoccupations, je voudrais peut-être que nous fassions un résumé sur ce que les travaux de ces 5 ou 6 dernières années, mais aussi les leçons de ces 5 ou 6 dernières années que nous avons tenues ensemble, nous ont appris sur la tradition de l'Avesta telle que nous nous la représentons aujourd'hui. Alors, nous avons pu éventuellement dégager des étapes dans la constitution d'une doctrine mazdéenne en langue avestique. Dans le tableau que je vais commenter avec vous et qui est déjà affiché ici grâce à Madame Azarnouche, n'est-ce pas, cela paraît crûment comme des étapes. Il faut peut-être voir que ça n'est qu'égrené des innovations conceptuelles que nous observons à certaines époques, mais il ne faut pas voir cela comme une succession de paliers, mais comme une évolution continue vers une doctrine dont finalement nous pouvons observer le résultat dans les textes de l'Avesta récent. Alors, donc je vous rappelle que cette conception que nous avons des Yasht, nous l'avons lentement mise au point ces dernières années. C'est une réalité très récente. J'aurais d'ailleurs à cœur, comme d'habitude, de faire une mise au point historiographique de temps en temps, c'est-à-dire de vous livrer la date où telle conception est apparue dans nos recherches. Alors, le tableau, au point de vue technique, le tableau que vous avez sous les yeux comporte au fond 3 colonnes. Hein. Celle qui se situe à votre gauche donne le niveau linguistique correspondant à celui de la formation progressive du canon. Donc cela sera commenté parce que bien sûr nous avons des interrogations aussi. Cela n'est pas aussi clair et aussi ferme que peut l'apparaître un schéma. Alors, l'évolution même du corpus avestique, sa constitution progressive fait l'objet de la colonne centrale. Et à droite, nous trouvons quelques tentatives, cela aussi, il faudra montrer combien c'est hypothétique, les quelques tentatives possibles que nous pouvons faire pour faire correspondre l'histoire du corpus avestique avec l'histoire tout court. C'est très mince, comme vous verrez, c'est très mince et très incertain. Alors, les textes les plus anciens dont nous disposons, pour commencer là, maintenant véritablement le commentaire, les textes les plus anciens dont nous disposons dans le corpus forment le cœur de la liturgie longue, comme vous le savez, c'est d'une part les Gatha et d'autre part le Yasna Haptankaiti. Cela signifie que la couche la plus ancienne de la constitution de l'Avesta, celle qui est rédigée dans la langue que nous appelons depuis 1969 le vieil avestique, plutôt de l'appeler le gathique, est double. Il y a une tradition double. Celle des Gatha, d'une part, les chants, et celle du Yasna Haptankaiti, ou sacrifice en 7 chapitres. C'est une conception dont nous devons l'observation à Johannes Arten, vous le savez. Donc, ici, première date historiographique, 1985. Mais si le livre de Narten est paru en 1985, la thèse qu'il représentait avait été soutenue en 1969. Il y avait donc déjà beaucoup d'initiés depuis 1969, Et par exemple, mes non-racines de l'Avesta en 74 ou mon verbe avestique en 84 ont été composés dans une optique anachronique, puisque j'observais déjà à ce moment-là les catégories de Narten et je considérais le Yasna Habdankhaiti non pas comme un texte intermédiaire entre l'Avesta récent et l'Avesta ancien. Bon, alors, les problèmes bien connus, je vous les rappelle, que pose la confrontation de ces deux traditions, c'est d'une part la forme. D'abord la forme. Les gathas sont en vers, le Yasna Habdankhaiti est en prose. Que signifie cette différence? Que signifie cette différence qu'il faut prendre au sérieux parce qu'une strophe gathique semble faire la critique de la pratique de la prose. Il y aurait donc une opposition possible. Il y a l'absence de Zarathoustra dans le Yasna Habdankhaiti et sa présence obligatoire dans chaque gatha. Deux fois en général, dans chaque gatha, ce qui semble bien une convention. Mention de son nom deux fois. Alors, est-ce que cette présence ou cette absence doit être mise en rapport, doit être rapportée à une autre différence rhétorique qui est celle du « je » et du « nous » Les gathas alternent avec une très grande souplesse et un très grand arbitraire, du moins à nos yeux, entre le « je » et le « nous » en référence à celui qui les prononce. C'est le « je » qui l'emporte, statistiquement, mais pas de manière extrêmement impérieuse. Le Yasna Habdankhaiti, par contre, est massivement en « nous ». C'est un texte qui est même exclusivement en « nous », à l'exclusion d'une forme ou deux qui ne sont pas très claires et qui sont donc hypothétiques. Donc, faut-il conclure, pour lier les deux faits, que l'absence de personnel humain dans le Yasna Habdankhaiti est lié d'une manière ou d'une autre au choix du « nous » comme personne grammaticale pour le locuteur. Alors, une autre quatrième divergence entre les deux corpus, c'est une différence rhétorique, encore une fois. Vous savez, nous avons manié souvent la notion, les différences là que font les spécialistes de la rhétorique en Amérique définissent le style des gathas comme le style praise and blame, c'est-à-dire quand on fait l'éloge de quelque chose, il faut nécessairement faire le contraire, vis-à-vis blâmer quelque chose. Donc on alterne en permanence dans les gathas avec aussi une très grande souplesse entre l'éloge et la condamnation. Je préfère m'exprimer comme ça que parler en termes de dualisme parce que la surestimation du dualisme vient de là, n'est-ce pas ? On n'a pas suffisamment pris en compte les conventions rhétoriques des textes. Les gathas sont praise and blame. Par contre, le Yasna Habdankhaiti est uniformément praise. Seulement, les faits positifs sont évoqués. Voilà la liste des différences. Il faut ajouter à ces différences une autre question, c'est la question dialectale. Y a-t-il une différence de dialecte entre les gathas et le Yasna Habdankhaiti? Du point de vue chronologique, nous sommes entièrement dépourvus d'arguments. Et nous ne disposons d'aucun argument qui nous suggérerait de situer un texte antérieurement à l'autre. Ça n'existe pas. Par contre, il y a des différences dialectales. Mais il n'est jamais sûr que ces différences dialectales ne sont pas liées justement à l'usage rhétorique, vers prose. Généralement, lorsqu'Éric Pirard et moi en avons fait le relevé, rien n'était très significatif. Les faits les plus sûrs, mais ils sont délicats à manier, extrêmement délicats à manier, ce sont des divergences d'ordre lexical. Il semble que, comme aujourd'hui, entre le français de France et le français de Belgique, un maire est un bourgmestre. Ce ne sont pas des différences qui peuvent s'interpréter ni par la dialectologie, ni par, bien sûr, la chronologie. Ce sont des faits lexicaux, relèvent parfois d'autres données. Mais il y a certainement des différences de cette façon-là. Alors, la deuxième étape que je voudrais vous proposer, nous l'avons étudiée depuis déjà peut-être 2-3 ans, mais nous avons continué à affiner peut-être la représentation que nous en avions. Elle a été définie en 2006 par Xavier Tremblay, mais lui, son hypothèse était elle aussi connue depuis 2003, puis le colloque de Vienne, comme celle du moyen avestique. Je ne suis pas convaincu qu'il existe un moyen avestique. Néanmoins, je crois que d'une certaine manière, les textes qui sont pris en considération par Tremblay présentent des caractéristiques communes qui témoignent de leur archaïsme. Et nous allons y venir. Le moyen avestique, pour le définir cet état de langue comme ça, il faudrait disposer de critères linguistiques sûrs. Il n'en apparaît que deux. Deux qui sont très clairs dans ce corpus textuel, c'est que l'ablatif singulier des noms thématiques n'est plus semblable au génitif, des noms athématiques, n'est plus semblable au génitif, mais est analogiquement construit sur les thématiques. Or, ça, c'est un trait de l'avestique récent. À cet égard, les textes témoins paraissent de l'avestique récent. Par ailleurs, il semble faire encore un usage fréquent et peut-être valide, pertinent, de l'aoriste, ce qui n'est plus le cas de l'avesta récent. Mais là, c'est plus difficile à estimer, parce que ça peut tenir à ses caractéristiques littéraires. Donc voilà. Maintenant, quel est ce corpus? Quels sont les textes moyens avestiques allégués par Tremblay? Eh bien, au début de la liturgie longue, dans les préliminaires du sacrifice, du yasna 11-16 au yasna 15-1, et il faut tout spécialement mentionner le yasna 12, où le texte fravarané, la déclaration du choix rituel. Le yasna 27-14 et 15, c'est-à-dire les deux prières, entre guillemets, Hashem Vohu et Yenke Hatam. Le yasna 56, dont un petit fragment est déporté dès le yasna 27-6. Et puis le yasna 58, qui porte le titre de Shusho Mantra, ou la formule du conquérant du bétail. Or, ces textes ont des caractéristiques littéraires communes et précises, quel que soit l'état de leur langue. D'abord, c'est la pratique de la citation. Citation de divers types, littérale. Il y a des passages vieil avestique reproduits littéralement. La citation peut être manipulée, légèrement transformée. Par exemple, on passe du jeu au nous, c'est ce qui arrive dans l'Yasna 12. Ou bien c'est carrément une réécriture. Le Yenke Hatam, par exemple, est une réécriture fondamentale de la strophe Yasna 51-22. Donc, cette technique, ce jeu sur la citation des textes plus anciens et devient pratiqué comme une source de création littéraire et d'innovation conceptuelle. C'est l'art de la citation comme technique artistique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de caractéristique dans cette pratique? Eh bien, c'est qu'il est très clair que les auteurs de ces textes combinent leurs citations de telle sorte que la tradition des gathas et du yasna haptankaiti se combinent. Il y a donc ici une volonté, qui est bien sûr implicite, ils ne le disent pas ouvertement, ce serait trop beau, mais d'associer de manière étroite ce que disent les gathas et ce que dit le yasna haptankaiti. Oh, ce qui n'est pas acrobatique, parce que les deux textes ne disent pas fondamentalement quelque chose de différent. Mais c'est une référence. Par exemple, la prière Hashem Vohu. La prière Hashem Vohu, comme Pirard et moi le pensons, est un exercice d'exégèse sur les gathas. Hashem Vohu fait référence à la fin du Yasna 52 et la suite du texte au Yasna 43.1. Donc cette formule qui paraît un peu ésotérique est en fait une formule qui figure la composition du cœur du corpus gathique. Eh bien, cette prière Hashem Vohu reçoit les épithètes que Asha reçoit dans le Yasna Haptankaiti, c'est-à-dire qu'il est beau, Sreshta, et immortel, Amesha, etc. Il y a, dans beaucoup de cas, ce n'est qu'un exemple, une volonté de combiner les références aux deux textes. Alors, pourquoi est-ce que je maintiens une couche définie comme moyen avestique Eh bien, c'est parce que je pense que ces textes, effectivement, sont plus archaïques que le reste de l'Avesta ancien, quel que soit leur statut linguistique, et que pour une raison très précise que je vais vous livrer, il faut nécessairement les situer entre le corpus ancien et le corpus récent. Les deux détails qui plaident, ou plutôt qui imposent cette conclusion, c'est que ces textes, dont je vous ai, que je vous ai situés dans le corpus, prennent en considération des textes vieil avestiques perdus. Ils connaissent des textes que nous n'avons plus. Ces textes sont cités, malheureusement, puisque nous ne les avons pas, nous ne voyons pas de quel ordre est la citation. Est-elle littérale, est-elle manipulée, est-elle réécrite ? Donc il y a là une difficulté majeure, sur un corpus en tout cas aussi limité. Mais en tout cas, il y a référence à des textes perdus. D'ailleurs, les deux premières études qui avaient porté sur une partie de ce corpus, le Yasna 56 et 58, au début des années 90, avec Éric Pirard, étaient fondées sur la volonté de rechercher dans ces chapitres des passages vieil avestiques inconnus. C'était le début de l'étude de ces textes, et pour la première fois peut-être que depuis très longtemps, on portait un intérêt à cette zone obscure du canon qui avait été laissée en déshérence par nos prédécesseurs. Ça, c'est la première considération. C'est la seule couche, sans doute, de l'Avesta où affleurent encore des textes anciens inconnus. La deuxième raison, c'est qu'il y a une possibilité. La possibilité est ouverte pour ces textes eux-mêmes de s'intégrer au corpus des textes anciens, doués de la même sacralité exactement que les textes anciens. C'est les deux prières, entre guillemets, la Shem Vohu et le Yenkei Hatam, en sont un exemple. Mais il faut aussi, désormais, à cause du Yasna 57 qui le dit expressément, il faut aussi tenir compte du fait que le Shusho Mantra, Yasna 58, est considéré comme une partie de l'Avesta ancien par les rédacteurs de l'Avesta récent. Donc, les textes dits moyens avestiques, quel que soit leur statut linguistique, peuvent s'intégrer au canon des textes anciens. Donc ici, nous n'avons toujours pas de rapport possible, de combinaison possible avec avec l'histoire tout court. Nous sommes toujours dans la préhistoire iranienne. Nous passons maintenant à des strates qui sont très clairement celles du dialecte dit Avesta récent. Et je pense qu'il y a, il faut tenir compte de ce terme, nous l'avons prononcé souvent lors des cours des quatre dernières années, c'est que les textes qui portent témoignage, les textes avestiques que nous possédons et qui portent le témoignage d'un mouvement de spéculation intellectuelle évident, de formation progressive d'une doctrine, sont la plupart du temps des textes d'exégèse. Ou bien ils représentent eux-mêmes une exégèse, ou bien ils ne vont pas sans une exégèse parallèle, que nous l'ayons ou non. Alors, une exégèse, la deuxième, ce que j'appelle la deuxième exégèse, la plus ancienne sans doute qui soit discernable dans l'Avesta récent, est marquée par une innovation conceptuelle considérable. C'est la doctrine des âges du monde. Tous les textes de l'Avesta récent, je pense, ne se comprennent pas sans référence à cette doctrine-là. Même lorsque l'allusion est mince, lorsque l'on nous dit dans l'Yasna 57, par exemple, que Srausha est le premier sacrificateur dans le monde matériel, ça fait bien entendu référence à un état particulier du monde, où intervient le dieu Srausha. Alors, les âges du monde, je ne dis pas la doctrine des millénaires parce que je veux rester simplement, je veux rester discret sur ce point de vue-là, étant donné que l'Avesta n'atteste aucun chiffrage véritablement décisif. Il y a des éléments de chiffrage, oui, mais je trouve qu'ils sont insuffisants pour que nous parlions tout de suite de doctrine des millénaires. C'est une doctrine des différents états du monde considéré dans une histoire cosmique. Alors, ces quatre états successifs, vous savez, c'est d'abord l'idée, la priorité, le fait que la pensée est préexistante à la matière. Il y a donc un état de pensée du monde qui précède tous les autres. C'est le premier âge du monde. Enfin, il y a eu une période où le monde matériel était immobile. L'immobilité du monde matériel est préalable à sa mobilité. Troisième état, donc un monde matériel mobile, mais c'est aussi pour l'humanité constitué une période chaotique. Période chaotique, d'ailleurs, dont quelques héros permettront de sortir progressivement, mais au prix d'une très longue succession d'exploits héroïques qui sont racontés dans les listes de sacrifiants d'Eyacht. Enfin, dernier âge du monde, c'est le nôtre, celui qui est marqué par l'apparition du Zarathoustra, de la religion, de la Daïna. Alors, cela, sans doute, ce sont des éléments dont je ne connais pas l'origine et qui semblent des éléments spécifiques de la pensée iranienne. C'est le résultat d'une spéculation qui paraît extrêmement efficace et de grande envergure. Nous ne pouvons pas supposer qu'il y a là-dessus une influence. Nous n'en avons pas les moyens. Il n'en va pas de même de l'idée que tout s'achève par la fin des temps. Là, c'est discutable. Et certains d'entre vous ont peut-être entendu, il y a quelques années, la conférence d'Anders Hultgård à cet égard, qui nous a très bien expliqué que deux hypothèses étaient possibles, ou bien effectivement c'est une innovation, ou bien au contraire, l'Iran est avec le monde scandinave, le domaine indo-européen qui a conservé ce schéma spéculatif, ce qui est une autre possibilité. Mais nous n'avons pas d'éléments décisifs pour en décider. Il faudrait peut-être, à cet égard, une exploration systématique du Rig Veda, mais c'est une autre chose. Alors, les textes qui témoignent de l'apparition de cette doctrine, de sa formation, nous avons les trois chapitres de la liturgie longue que nous avons étudiés ensemble et qui sont des fragments d'un commentaire qui est défini comme « bague », c'est-à-dire un commentaire qui fait un commentaire analysant, hein, la mise en morceaux littéralement, mais en avestique, c'est un commentaire, le mot est féminin, commentaire bagarre, c'est-à-dire apportionment, disait West, mais il s'agit donc, semble-t-il, si nous comprenons bien les choses, d'un terme qui signifie qu'effectivement le fractionnement qui implique bagarre réfère à l'analyse du texte en éléments constitutifs. Ce sont les chapitres 19, 20 à 21 de l'Avesta. Alors, cette époque, puisque ce commentaire porte sur le corpus ancien, il semble que le commentaire original, dont nous avons un résumé malheureusement très pauvre dans les textes moyens perses, est un commentaire progressif sur le corpus ancien, qui commence avec le premier texte ancien, c'est-à-dire l'Aruna Vairia, prière qui occupe le Yasna 27, et qui progressivement progresse vers la dernière prière, la prière conclusive, la prière à Aryamanishya. Cette démarche-là, elle implique la fixation né varietour du corpus ancien, qui portera désormais le nom de Staota Yesnia, les éloges sacrificiels. Donc le texte a un titre avestique, quoique je lui mette la marque française du pluriel. Les Staota Yesnia, ce sont les éloges sacrificiels. Bien entendu, je ne vous dis pas que c'est exactement ce que nous considérons comme tel aujourd'hui, à savoir cette portion de la liturgie longue qui va du Yasna 27-13 au Yasna 59 inclus, n'est-ce pas ? Il est bien sûr possible d'avoir, d'après avoir fixé l'Avesta ancien, d'avoir procédé à des manipulations limitée, il y a des intercalations. Nous avons d'ailleurs des intercalations de textes récents aujourd'hui dans ce secteur du yasna. Je vous citerai le yasna 35.1, le yasna 42, le yasna 52, le yasna 56 et 57 et le yasna 59 lui-même, comme nous l'avons vu l'an dernier. On peut être à peu près sûr, n'est-ce pas, que la fixation ne varietur du corpus ancien a eu lieu environ à cette époque, car l'Avesta lui-même en porte le témoignage. La structure que certains textes avestiques donnent d'Esta Ota Yesnia correspond très exactement à ce qu'ils sont aujourd'hui pour nous. Nous en avons exactement trois témoignages, qui sont bien sûr d'une précision extrêmement variable. Le premier, le plus précis d'ailleurs, c'est le catalogue des textes que fait le Vispéret 1 et le Vispéret 2. C'est le même texte, mais il y a une variante casuelle. D'autre part, il y a aussi ce passage du Videvdat 9 qui mentionne les passages gathiques qui doivent être répétés deux, trois ou quatre fois. Et l'énumération qu'il fait nous laisse percevoir que la structure de l'Avesta ancien pour l'auteur du Videvdat était la structure que nous possédons. Le troisième témoignage, c'est le squelette, la table des matières squelettiques de l'Avesta ancien que nous trouvons dans le Yasna 57 et dont nous avons parlé l'an dernier. Donc la fixation névarietur du corpus ancien signifie ceci. Un certain nombre de textes a été sélectionné. Il y a eu sélection des textes, mais il y a eu aussi, c'est un mot un peu gênant à utiliser dans le cadre d'une littérature orale, il y a eu aussi édition du texte. À savoir, l'ordre de succession des textes n'a plus changé. Et cet ordre de succession est censé avoir un sens, comme le laisse penser l'exégèse du commentaire Bagh. Ceux qui ont procédé à cette édition pensaient dans leur spéculation, dans leur exégèse, que l'Avesta ancien, depuis le Yasna 27-13 jusqu'à la prière à Aryamanishya, Yasna 54-1, racontait l'histoire du monde, celle des quatre états dont je vous parlais. Il y a donc, à ce point de vue-là, une fixation des textes, et qui dit fixation et édition des textes, cela signifie perte de tous les autres. Perte de tous les autres. Ceux qui n'ont pas trouvé place dans cette édition sont bien sûr passés aux poubelles de la diasévase. Donc, dès ce moment-là, l'Avesta ancien ressemble à ce qu'il est aujourd'hui. Avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent du point de vue du rapport avec l'histoire, je voudrais maintenant faire intervenir en combinaison avec l'exégèse centrée sur les différents états du monde, je voudrais faire moi-même une spéculation que je portais, donc que j'appelle le stock octosyllabique. Nous avons parlé aussi de la curieuse métrique des textes de l'Avesta récent. Ce caractère innombrable des octosyllabes. L'octosyllabe est d'une très grande fréquence, mais les irrégularités, l'isométrie n'est pas respectée, les irrégularités sont elles aussi très fréquentes, de telle sorte qu'on a pu même, à la rigueur, mettre en doute qu'il y eut une métrique dans les textes de l'Avesta récent. Je crois qu'on ne peut pas pousser l'hypercritique jusque-là. Il y a affleurent dans les textes de l'Avesta récent des portions octosyllabiques considérables. Le stock octosyllabique dont je parle ici, ce serait une littérature dont nous avons recueilli certaines clausules dans certains textes de l'Avesta récent, comme la Tachnéa Yishn, l'Abzor, la liturgie longue, le Homestome aussi, qui est peut-être celui qui se prête le mieux à une étude des phénomènes métriques, comme une étude d'Éric Pirard l'a montré, ou comme nous l'avons vérifié ensemble, les yachts aussi. Les yachts sont par essence une littérature de type peut-être plus narratif et qui semble avoir privilégié la réutilisation de formules du stock octosyllabique. Naturellement, dans les yachts ou les textes que nous possédons, ces clausules sont mises en situation. Elles interviennent dans un cadre rhétorique et rituel particulier. Nous savons, si la clausule est à l'accusatif, quel est le verbe principal. Mais quand je parle de stock octosyllabique, je parle de quelque chose de virtuel, parce que nous ne savons pas dans quel contexte syntaxique, rhétorique ou même d'utilisation rituelle non plus, où ces clausules étaient utilisées. Dès lors, j'eusse été peut-être un peu mieux inspiré si j'avais ouvertement mis devant l'expression stock octosyllabique l'astérisque de restitution. Ce n'est que quelque chose que nous devinons, à travers les textes de l'Avesta récent. Seulement, ce stock octosyllabique, si nous en jugeons par ce que nous en apprend l'Avesta récent, constitue une littérature qui, du point de vue conceptuel, dépend elle aussi de l'innovation centrale qui est la doctrine des États du monde. Et cette innovation centrale théologique modifie la perception des anciens dieux. Nous avons essayé de l'établir pour les dieux qui survivent cette année, deviennent des divinités fossiles, comme Apamnapat, dont on perd le yacht de référence, ou bien qui sont des dieux revus et corrigés, comme Mitra, et nous le verrons tantôt peut-être pour Vayu, et qui aussi en suscitent de nouvelles divinités. Cette idée de susciter de nouvelles divinités, nous avons étudié ces dieux qui naissent cette année, de quelques exemples, mais aussi les années précédentes. Les dieux naissent à des stades divers du schéma que vous avez ici. Dans les Gathas, déjà, Ashi et Srausha sont des divinités. Or, très clairement, leur nom s'explique très bien dans le cadre de la terminologie indo-iranienne du sacrifice, certes, mais nous n'avons pas d'allégorie parfaitement correspondante au stade indo-iranien, nous l'avons vu. Or, ce sont des divinités vieilles avestiques, déjà. C'est des divinités gathiques. Srausha est absent du Yasnavaptankaiti. Seul Ashi y est représenté. Nous avons parlé des Fravashi. Il semble que les Fravashi soient à un niveau inférieur du point de vue chronologique, puisque, certes, la notion est elle aussi indo-iranienne. Le mot est attesté une fois dans le Yasnavaptankaiti. Il n'est pas sûr que le lexique, justement, des Gathas ne diverge pas à cet égard-là. Mais il ne semble pas qu'il y ait nous n'avons aucun indice pour l'Avesta ancien de la personnalisation de la notion. Nous ne sommes pas sûrs qu'on ait passé au stade de l'allégorie, comme nous le sommes. Alors, nous avons parlé aussi de Vrtrakna, lui aussi, terme hérité certainement de l'époque indo-iranienne, mais l'accession au rang d'allégorie n'a peut-être lieu que dans l'Avesta récent. Donc, la possibilité est ouverte avec toutes les incertitudes que nous pouvons entretenir à cet égard, mais c'est ici aussi qu'après l'historiographie ou bien l'exégèse, nous avons parlé à cet égard d'une possibilité ouverte pendant très longtemps dans la tradition avestique de théogenèse. La naissance de Dieu reste possible, probablement, jusqu'au stade de la deuxième exégèse. Peut-être de la troisième. Et cette théogenèse s'exprime, n'est-ce pas, dans le stock octosyllabique par un certain nombre de représentations qui, bien sûr, confinent à la mythologie. On voit s'exprimer dans ce stock octosyllabique une mythologie de Srausha, une mythologie d'Ashi, une mythologie des Fravashi, une mythologie de Vrtrakna, bien sûr. Mais cette mythologie est passée au filtre de l'innovation théologique qui est celle de la doctrine des États du monde. Il y a donc, même si certains mythes anciens sont récupérés à l'état pur, déformés d'une manière ou d'une autre, la théogenèse va de pair pendant très longtemps avec une mythogenèse, avec la possibilité de créer des mythes. La mythologie n'est pas une survivance dans l'Avesta récent. Il y a des aspects de survivance, mais il y a aussi des aspects de nouvelle mythologie. Une néo-mythologie s'est formée. Alors, le fond d'origine de cette nouvelle mythologie, ce ne sont ni les personnalités divines, les noms communs au panthéon védique et au panthéon des Yachts sont très rares, comme nous l'avons vu. Ce ne sont pas non plus les fonctions traditionnelles qui ont tendance à s'attacher à n'importe quelle personnalité divine, que ce soit, pour le dire de manière dumézilienne, la fonction magico-religieuse, la fonction guerrière ou la fonction de... où la fonction de fécondité ne sont pas des traits qui personnalisent profondément les divinités mazdéennes, mais elles sont fondées dans leur naissance même ou dans leur transformation sur une certaine conception du sacrifice, qui est elle, bien entendu, indo-iranienne, hein, comme il a été montré pour Srausha, qui incarne les sonorités du rite, comme il a été montré par Éric Pirard pour Hachi, qui incarne l'aller-retour, qui figure le do ou des du sacrifice. Et c'est le cas, bien entendu, aussi des Fravashi, qui sont l'allégorie du choix de la cible sacrificielle. Est-ce que, naturellement, pouvons-nous nous fier entièrement à cette observation ? C'est ici que je fais intervenir à nouveau une quatrième notion dont nous avons beaucoup parlé, c'est que nous ne devons pas aussi oublier que tous nos textes, que ce soit les textes indiens d'ailleurs ou les textes indo-iraniens, sont des textes étroitement contextualisés dans l'optique sacrificielle. Y avait-il autre chose à côté ? Telle est la question que l'on peut se poser. Quelle était la perception que l'on pouvait avoir de ces divinités ou de cette mythologie, dès lors que nous nous trouvions en dehors d'une perspective étroitement ritualiste. Hein, nous ne pouvons pas en être sûrs. Nous avons des textes contextualisés et nous n'avons qu'eux, nous ne pouvons faire qu'avec eux. Alors, je voudrais faire remarquer ici, à ce stade, que ce qui vient vous dire, cette transformation profonde des divinités que nous observons dans l'Avesta récent, eh bien, cette transformation-là, elle va aussi affecter l'histoire des héros mythiques du passé humain. Nous l'avons observé avec Tritomna, alors je profite de l'occasion pour faire un peu de pub, hein. Mon service et moi-même, nous avons l'intention d'organiser au mois de juin, le 9 et le 10 juin exactement, c'est un jeudi et un vendredi, un petit colloque sur le héros mythique sur lequel nous disposons du plus grand nombre d'informations dans l'Avesta, c'est à savoir Yama pour l'Inde, Yima pour le côté indien, c'est-à-dire le jumeau. Et nous, si ça vous intéresse, peut-être pouvez-vous assister à ce qui en sera dit à cette occasion pendant une journée et demie. Hein, parce qu'effectivement, il faut aussi que nous envisagions comparativement, dans le cadre des traditions indiennes et des traditions mazdéennes, le cas des héros mythiques et le cas de Yama est sans doute le cas le mieux documenté, mais aussi un des plus difficiles à envisager. Et voilà la raison pour laquelle je voulais provoquer un événement qui nous permettrait d'étudier cette question. Alors, voilà, maintenant, il y a une question que nous pouvons nous poser au stade de la seconde exégèse. Nous ne pouvions pas le faire avant. De nous poser la double question quand et où ? Quand et où ? C'est-à-dire celle des rapports avec l'histoire. Bien, on peut considérer que la proto-histoire iranienne, le moment où les voisins des Iraniens vont parler d'eux, se situe au 8e, 7e siècle avant notre ère, bien sûr, n'est-ce pas, au moment où les sources mésopotamiennes nous livrent des éléments d'onomastique mède, le nom de personnage mède, et onomastique mède que nous pouvons confronter à celle de l'histoire des mèdes que nous a rapporté Hérodote. Alors, que nous apprend cet onomastique ? Je crois qu'un des traits que nous avons envisagé, un des traits les plus significatifs, c'est celle du roi Fravarti. C'est le nom des Fravashi. Hein, c'est le nom des Fravashi. Mais pas Fravashi avec sa caractéristique purement avestique, mais la forme originale est Fravarti, celui que les Grecs adapteront en Fraortès. Bon. Ça dépend bien entendu de la formation de la mythologie des Fravashis. Est-ce que l'apparition d'un roi Mède qui probablement prend le nom, hein, c'est probablement pas le nom qu'il a reçu, si j'ose dire, à son baptême, mais c'est le nom qu'il prend lorsqu'il accède au trône. S'il prend ce trône, c'est que la notion de Fravarti, mais probablement aussi l'importance de l'allégorie de cette notion, c'est-à-dire des divinités que nous connaissons sous le nom de Fravashi, avait une certaine importance. C'est un rapport possible avec l'histoire si l'allégorisation, si l'érection en allégorie se situe seulement au niveau de la deuxième exégèse. Nous ne pouvons pas être sûrs qu'elle n'a pas eu lieu avant, évidemment. Le mot est attesté dans l'Iasna Haptankaiti. Nous n'avons aucun indice qu'il existait une mythologie. Le mot est attesté avec son sens abstrait, comme une notion abstraite, et non pas comme une désignation de certaines divinités. Nous ne pouvons pas en être parfaitement sûrs. Mais si nos sources sont à cet égard significatives, la mythologie des Fravashi n'apparaît qu'avec la deuxième exégèse, à coup sûr. Alors nous avons comme cela une indication, peut-être un petit point de référence historique au 7e siècle. Au 7e siècle, la deuxième exégèse avait eu lieu. Je le dis d'une manière très positive et beaucoup trop optimiste, hein, c'est une hypothèse, mais on peut envisager les choses comme cela. C'est le premier élément que nous pouvons avoir, c'est onomastique mètre qui est le témoignage essentiel de ce que nous appelons la proto-histoire iranienne. Alors, la troisième exégèse, c'est aussi, bien sûr, troisième exégèse, ce qui la caractérise de manière la plus significative, ce qui la constitue même, bon, ici aussi c'est quelque chose de nouveau, les premiers éléments de cette idée ont été, pour ceux qui survivraient encore de cette époque parmi vous, nous les avons établis ensemble, mais c'était en 98, hein. C'était en 98, et ce que j'ai fait de manière encore extrêmement imprécise à cette époque a été depuis lors amélioré par mon collègue Cherveux en 2007, puis par Quintera en 2009, et nous-mêmes, depuis quelques années, nous tentons d'améliorer un peu la vision que nous avons de cette chose. Eh bien, ce qui marquerait cette troisième exégèse, c'est la constitution d'un grand sacrifice solennel standard. Avec variante, bien sûr. Nous savons la constitution du récitatif de ce grand sacrifice a pu subir des remaniements. Il a pu y avoir successivement des intercalations. Ça, nous en sommes sûrs, il a eu des variantes. Il y a eu des variantes, hein, comme Cherveux, Quintera l'ont très bien démontré, et sans nul doute que Quintera est en train à nouveau dans déceler beaucoup d'exemples nouveaux. Donc, mais l'idée est la même. Sur la base d'un corpus textuel, qui est celui des Staouta Yesnia, élargi d'autres textes avec des combinaisons possibles, il est question de fixer le récitatif d'un grand rite solennel, ce que nous appelons aujourd'hui la liturgie longue, c'est-à-dire le Yasna, éventuellement élargi du Visprat, et du Videvdat. On pourrait aussi, vu la composition de certains textes récents de cette époque, situer à la même époque la mise en genre du stock octosyllabique. Mais j'en viens d'abord à la constitution du grand rituel solennel standard. Nous avons désormais un cursus rituel. Nous avons un cursus rituel qui a un sens, qui se déroule d'une façon précise, qui a un sens, et ce sens est de raconter l'histoire du monde, selon ceux qui l'ont mis au point. De quoi avons-nous quoi disposons-nous avant d'avoir ce texte qui est celui de notre Yasna? Eh bien, nous disposons, pour le dire ainsi, de modules rituels. Ils sont nombreux dans les gathas. Il y a tout un vocabulaire qui est peut-être moins un vocabulaire du genre rituel qu'un vocabulaire de la parole rituelle. Une sorte de désignation des différents type de paroles que les récitants d'une cérémonie peuvent prononcer. Nous en connaissons quelques-uns. Ils ne sont plus aussi vivants dans l'Avesta récent, quoiqu'ils apparaissent aussi sporadiquement, que ce soit le yana, la demande. Nous avons vu la possibilité peut-être du type de la plainte lors de la leçon dernière. Nous avons aussi d'autres, la friti, la propitiation, etc., c'est-à-dire un certain type de paroles rituelles, le gar, le chant de bienvenue, etc. Donc des modules rituels qui sont nombreux dans les gathas, mais qui sont pour nous, dans une certaine mesure, indéfinissables dans leur combinaison même. Nous ne pouvons pas percevoir dans la mention de ces noms que font les gathas, elles rôdent presque essentiellement là-dessus, dans un tissu interstitiel parfois difficile à comprendre, à voir comment ces éléments se combinent et à quelle structure exactement, à quelle structure cérémonielle ils se rapportent. Je vous signale qu'à cet égard, la constitution du grand rituel standard aboutit à une situation qui fait des gathas quelque chose de très analogue à ce que sont les hymnes du Rig Veda. Les hymnes du Rig Veda sont utilisés dans les grands rituels brahmaniques, mais nous ne savons pas à quoi ils étaient destinés exactement dans le rituel à la date de leur composition. C'est comme cela que nous devons envisager les gathas. Les gathas sont sans aucun doute des textes rituels, ce sont des récitatifs rituels, mais la cérémonie correspondante est insaisissable pour nous dans l'ordre de nos connaissances. Ce texte a été séparé, a été désarimé de son utilisation primitive pour être inséré dans le grand rituel standard. Cela, c'est à nouveau, après la deuxième exégèse, après la perte d'un grand nombre de textes vieillavestiques, voici maintenant, nous larguons une deuxième fois l'Avesta ancien, n'est-ce pas ? Maintenant, la rupture est accomplie avec l'utilisation rituelle qui en a été faite. Alors, nous avons, dans les rituels que peut-être le Yasna récent présente, il nous en reste un, à coup sûr, qui a été réutilisé, que nous voyons, et dont nous ne savons pas non plus très bien comment il se produisait. C'est le rite de pressurage du Hauma, que le Yasna 9, 10 et 11, ce qu'on appelle le Humstom, l'éloge de Hauma, est un récitatif censé accompagner un pressurage. Ce n'est plus le cas dans le Yasna non plus. C'est aussi un texte désarimé de son utilisation primitive, mais quand c'est un texte récent, nous saisissons beaucoup mieux sa portée et le cursus qu'il est censé représenter. Ce que nous ne savons plus, c'est comment un rite de pressurage de Hauma pouvait se situer par rapport à d'autres types de rituels, supposons un rituel avec immolation. Où se situe le rituel du pressurage par rapport à l'immolation ? Nous le savons à l'intérieur du Yasna, mais le rite de pressurage tel que le Homestome a été composé pour l'accompagner, nous ne le savons pas bien. Donc, tout ce que nous percevons encore à présent de la littérature avestique, c'est l'utilisation qu'en fait le grand rituel standard. Alors, la mise en genre du stock octosyllabique, c'est aussi une hypothèse, c'est une spéculation, mais c'est une spéculation qui est censée prolonger donc celle du stock octosyllabique, dès lors que l'on va introduire les clausules octosyllabiques dans des genres particuliers. Peut-être le genre Yasht, justement, le genre Yasna, c'est-à-dire elles vont se faire l'objet de Yasamaïdé, où elles vont devenir, dans le cadre d'une afriti, elles vont s'organiser autour de formules de propitiation à l'optatif. Eh bien, l'introduction de nouveaux éléments qui sont particuliers au genre donné va avoir pour effet, bien sûr, de dérégulariser la métrique. Un yasamaïdé va devenir syllabiquement de trop. Il n'y a pas que cela qui trouble la métrique, bien sûr. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut suspecter ou même ne pas suspecter. Il y a d'autres choses, mais il y a aussi cet élément-là. Et je vous ai dit qu'il y avait peut-être une autre manière de l'envisager, mais qui n'est pas plus sur laquelle nous ne pouvons aussi que spéculer. cette manière de l'envisager, par exemple pour le problème du Yasamaïdé, ainsi que Eric Pirard en a fait l'hypothèse, c'est dire qu'un texte yasht, un texte yasna, ne pouvait pas être parfaitement métrique. On voit très bien la raison, mais elle est vertigineuse. Elle est vertigineuse. Ça impliquerait, je pense, que si l'on part d'un stock métrique pour en faire un stock non métrique, quelle peut être la motivation qui se trouve derrière, derrière une telle pratique? Eh bien, l'influence déterminante du Yasna Haptankaiti. Parce que le Yasna Haptankaiti en prose est le texte de référence permanent, sur le type Yasht, sur le type Yasna, sur les formules où l'on dit Yasamaïdé. Dès lors, on dérégularise un stock métrique pour en faire, par fidélité à la traduction, à la tradition haptahatique, mais aussi à la spéculation et à l'exégèse que l'on en fait, une littérature qui se rapproche de la prose. C'est une chose assez étonnante, peut-être, que cette évolution historique, il nous faudra l'envisager, mais je ne résiste pas, au plaisir d'en faire mention aujourd'hui. La métrique gathique est très complexe. Chaque gatha a son maître particulier, et celui de la dernière, du Yasna 53, est particulièrement complexe. Elle est très complexe. Alors, on passe de cette littérature qui correspond, qui doit être mise en regard, à une littérature de prose totale, hein, comme le Yasna Haptankaiti. On peut passer à une littérature octosyllabique, c'est-à-dire le vers le moins compliqué qui soit, presque le plus naturel qui soit. Donc, on aurait quasi un texte avec un texte parfaitement et régulièrement octosyllabique. Si le stock octosyllabique a jamais existé, on passe à une littérature qui n'est guère qu'une prose rythmée. Mais une prose rythmée régulièrement, puisqu'elle procède systématiquement par octosyllabe. Et puis, à un autre niveau, on retombe sur le phénomène de la pause rythmée, mais cette fois-ci irrégulièrement. On introduit un principe d'irrégularité dans la régularité du rythme de la prose. Ce serait une chose étrange, mais elle n'est pas exclue. Cela peut-être est une perspective d'étude pour à venir, n'est-ce pas? Mais il faudrait pour cela reprendre les données de l'Avesta ancien. Alors ici, bien entendu, nous allons aussi nous poser la question où et quand. Où et quand? Quels sont les 522, c'est le début de l'histoire iranienne, c'est l'accession de Darius au pouvoir qui, en 521, serait plus précis, fait graver le premier texte écrit iranien, l'inscription de Behistun. Mais 522, c'est l'accession de Darius au pouvoir. Quelles sont les indications que nous avons? Je vous les rappelle, hein, ce sont des spéculations pures. D'abord, le nom de Darius. Oh, lui, il ne nous apprend pas quelque chose sur la date des différentes étapes de ce processus. Tout ce que nous savons par le nom de Darius, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il doit connaître l'Avesta ancien, il doit connaître les gathas. Son nom, qui est aussi un nom d'intronisation, est adopté des gathas. Nous avons le passage exact. Nous avons le passage exact des gathas où il a, en quelque sorte, extirpé les deux mots dont il va composer son nom quand il accède au pouvoir en 522. D'autres noms, sans doute, Achéménides, ont cette caractéristique. Mais cela ne nous apprend pas grand-chose. Ça nous apprend simplement qu'en Perse, l'on connaissait les gathas ou un texte très approchant à l'époque de la prise du pouvoir par le premier roi Achéménide, puisque les précédents ne le sont pas, Achéménide. Hein. Le deuxième élément dont nous avons souvent parlé, c'est que dès cette époque, dès la constitution du pouvoir achéménide, nous disposons à l'ouest de l'Iran d'un certain nombre de documents archéologiques. Alors, il y a la question des autels du feu. Mon impression, vous me direz, c'est une hypothèse, nous l'avons faite ensemble cette année, c'est que le texte du Yasna, le texte du grand rituel solennel, a été composé alors que les conditions du sacrifice impliquaient encore le renvoi final du feu et de l'eau. Hein, la personnalité d'Apandapat. Donc, l'extinction du feu, période encore de nomadisme du feu rituel. Le feu n'était pas permanent, il n'était pas conservé, il n'était pas nécessairement toujours allumé au même endroit. Alors, l'apparition à l'époque achéménide, dans la glyptique achéménide, à coup sûr, d'autel du feu, ne veut pas dire grand-chose, parce que la présence d'un autel du feu ne signifie pas que le feu n'est pas éteint, mais c'est un premier pas quand même, puisque l'autel du feu, à moins qu'il ne soit transportable, ce qui peut être le cas, ou démontable, ce qui peut être le cas aussi, n'est-ce pas, n'atteste pas sûrement que le sacrifice est toujours rendu au même endroit. Il peut toujours être rendu au même endroit, mais avec extinction finale du feu. C'est toutes sortes de possibilités. Vous voyez, ici, nous sommes dans quelque chose de très vague, mais on sait que l'on va passer assez rapidement, à l'époque d'Artaxerxès II, probablement, à une époque où, avec l'apparition des premiers temples, le feu peut devenir permanent. Le feu peut devenir permanent. Mais c'est la fin du yasna qui cesse d'avoir un sens. Cesse d'avoir un sens, puisque la tâche Niaïch, Nélabzor, sont les textes de retour du feu et de l'eau à l'état naturel après avoir servi au sacrifice. Oui, alors le reste, je peux. Oui, le troisième point, c'est la déesse Mizdushi. Enfin, nous avons établi aussi, c'était l'an dernier, que le commentateur du Visprat, Visprat 24, avait relevé le fait, n'est-ce pas, qui est un peu voilé dans sa manière de s'exprimer par la litanie en Yazamaïdé, mais l'auteur du Visprat a bien marqué que le Yasna 53 mentionnait fréquemment, mais séparément, c'est le cas, le nom de Hachi et le nom du Mijda, du prix de victoire final. Les deux mots jouent en quelque sorte à cache-cache dans le Yasna 53. Hein, on trouve l'un et puis l'autre, mais ils ne sont jamais contigus. Et puis, brutalement, si, c'est la collision, ils se heurtent, dans la phase finale de la prière à Aryamanishya. Il n'y a qu'un seul mot entre eux. Les deux mots, finalement, se rencontrent. Et il semble que le rédacteur, l'exégète du Visprat, a été très sensible à ce détail. Alors, si la déesse Mizdushi, qu'attestent les tablettes élamites, est la déesse Hachi, comme on a fait l'hypothèse, n'est-ce pas, elle ne peut avoir changé de nom ou avoir pris un second nom qu'en vertu, peut-être, de cette exégèse-là. L'union qui était faite entre sa personnalité et la notion de prix de victoire finale, le gain du prix de victoire, qui caractérise la fin du sacrifice selon les mêmes textes du Visprat. Voici, je n'ai plus... Maintenant, le calendrier, nous en avons parlé, nous pensons que le calendrier religieux est préparé par le texte du grand rituel, par la liste des Ratu Pairish Havani, qui sont une sorte d'ébauche de calendrier, ou tout au moins la base sur laquelle conceptuel sur laquelle le calendrier a été constitué. Quant à son introduction en Perse, vous avez la fourchette, 459, c'est la dernière attestation de l'ancien calendrier vieux perse dans les tablettes élamites. Et nous savons aujourd'hui qu'à l'époque d'Alexandre, donc environ 330, le calendrier religieux était d'application grâce au texte araméen de l'Iran oriental qui a analysé Shaul Shaket, ici même d'ailleurs, à l'invitation de mon collègue Briand. Et comme nous avons tenté de l'établir, le corpus des hymnes sacrificiels a été constitué plus tard, pas nécessairement beaucoup plus tard, mais plus tard, et à une époque où l'on ne composait plus des textes en avestique pour une raison assez simple, car il paraît évident que le corpus a été constitué pour constituer un recueil de prières quotidiennes destinées aux divinités des jours du mois, mais avec un certain nombre d'inexactitudes qui ne s'expliquent bien que par un fait très simple, c'est que ce corpus a été constitué avec ce qu'on avait encore. c'est-à-dire qu'il eût été plus exact s'il avait été constitué à une époque où on pouvait encore rédiger en avestique, car on eut à cet égard, sans aucun doute, rédigé des textes en avestique, mais on ne le faisait plus. Je crois d'ailleurs que cette époque, la fin du IVe siècle, doit être l'époque de la fin de la composition en avestique. Voilà, alors je vais conclure rapidement, je vous remercierai de votre attention. Il faudra peut-être maintenant, après cela, pour vérifier la validité, pour préciser, pour revenir au début de tout, c'est-à-dire se soucier de ce qu'est l'Avesta ancien. L'Avesta ancien. Nous avons une littérature qui est une forme d'ampoule, c'est-à-dire qu'elle est mince aux extrémités. Les textes vieil avestiques sont quelque chose de très réduit, et la tradition qui aujourd'hui encore les préserve est elle aussi très mince. Très mince puisque vous savez que l'Avesta que nous possédons remonte en définitive à un seul archétype. Donc cette littérature est à ses extrémités réduite à un fil. Le corpus très mince des textes vieil avestiques est aujourd'hui le corpus très mince de la tradition manuscrite qui nous le transmet. Mais il faut savoir que l'extrémité, celle du haut, la plus ancienne, l'Avesta ancien, est une littérature qui a été écrémée. On a sélectionné des textes pour les éditer, et d'autre part, elle n'est pas suspendue dans le néant non plus. N'est-ce pas ? Elle est un début, le début de ce que nous avons. C'est le plus ancien texte que nous possédons, mais elle est elle aussi un aboutissement. Alors, il faudrait peut-être débrouiller tout ça, on verra. Je vous remercie pour votre attention.